Bonjour à tous. Visiblement, vous m'entendez. Bon, pour commencer, merci à vous d'être venu m'écouter et donc par ma voix être venu écouter les solutions proposées par mon organisation Hyperreal Institute, qui sont des solutions qui détonnent un peu toute proportion gardée dans le paysage de la silver economy, puisque contrairement à une majorité des organisations présentes ici, eh bien, on n'a pas d'outils numériques à vous vendre. Je vais donc vous présenter en particulier deux de nos projets, qui sont des projets européens et qui visent à développer les compétences numériques des assistantes de vie. Avant de vous expliquer ça, j'aimerais revenir un tout petit peu sur qui nous sommes, qui est Hyperia. C'est peut-être pas clair pour l'ensemble des personnes présentes ici. Ensuite, avant de vous expliquer le comment, vous expliquer le pourquoi on a décidé de se lancer dans cette aventure qui est le numérique avec les assistants de vie. Donc ensuite, vous le voyez, en troisième partie, j'évoquerai donc nos deux projets européens, Carer Plus et Carenet, qui sont les deux projets actuellement par lesquels nous amenons le numérique dans la vie à la fois des personnes âgées et des assistants de vie. Et on terminera, si vous avez des questions, par un petit quart d'heure de questions-réponses. Alors pour commencer, qui sommes-nous? Qui est Hyperia? Alors donc nous sommes le premier acteur de la professionnalisation des emplois de la famille en France depuis un certain nombre d'années déjà, puisqu'on va fêter l'an prochain les 20 ans d'Hyperial Institute. Alors la question que vous devez vous poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on entend par emploi de la famille? Alors ce sont les emplois qui sont occupés par des personnes qui travaillent au domicile de leur employeur ou bien dans certains cas à leur propre domicile. Alors qu'est-ce que ça veut dire globalement? On retrouve parmi ces gens-là les assistantes de vie qui vont nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, donc qui travaillent au domicile des personnes âgées. On va aussi retrouver les assistantes maternelles et ce qu'on appelle aussi les employés familiaux. Donc depuis sa création, Hyperia conçoit, développe une offre de formation qui est adaptée aux besoins qui ont été exprimés à la fois par les salariés et par leurs employeurs. Donc on a par exemple des modules de formation sur la dépendance, sur la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. On a aussi des modules de formation proposés pour optimiser l'employabilité des salariés. Donc on va leur apprendre à se rendre plus visible dans l'emploi, on va leur donner des formations de préparation au permis de conduire, des méthodes de communication avec leur employeur, tout ça voilà, pour entraîner une meilleure employabilité de l'employé. Alors donc, une fois qu'on a créé cette offre de formation, on labellise, c'est-à-dire qu'on habilite, il y a actuellement 346 organismes de formation en France qui dispense la formation que nous créons à destination des employés du domicile. En tout, cette formation, ce sont donc 80 modules de formation, donc dispensés par ces 346 organismes. Alors, on dispense quand même une expertise qui est reconnue à la fois au niveau national et international. Alors, au niveau national, ça passe par trois certifications professionnelles qui ont été déposées donc, au registre national des certifications professionnelles. Ces trois certifications ont été renouvelées pour 3 ans, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, ou en tout cas, il y a quelques jours. Donc c'est la preuve que les métiers auxquels l'on forme et que les métiers que l'on propose sont des métiers reconnus. Hyperia a aussi créé sa propre maison d'édition, sous laquelle elle a pour le moment publié un unique livre, qui est celui dont vous voyez la couverture sur l'écran, donc répondre aux besoins linguistiques des salariés du particulier employeur. C'est un livre dont on va publier très prochainement une seconde édition pour le mettre à jour. Alors donc, notre expertise est reconnue, je vous le disais, au niveau national. Elle commence aussi à l'être au niveau international, puisque assez récemment, un organisme du Burkina Faso est venu nous trouver, nous a identifiés comme experts de la formation des employés du domicile et est venu nous chercher pour monter une opération de coopération. Et donc aujourd'hui, j'ai plusieurs collègues qui qui s'occupe de, en tous les cas, d'améliorer la formation au Burkina Faso, donc communiquer avec nos collègues burkinabés pour que les employés burkinabés soient mieux formés. Même si ça peut paraître étrange, les services à la personne sont un besoin qui augmente de plus en plus dans la société burkinabaise. Et enfin, au-delà de l'international Afrique, on a un engagement européen qui est assez fort, puisqu'on mène deux projets européens en parallèle, qui sont les projets dont je vais vous parler, tout à l'heure. Le but de ces projets est de faire donc monter en compétences numériques des populations qui sont à risque d'exclusion sociale, donc à la fois les assistantes de vie et les personnes âgées. Tout ça en utilisant tout ce qu'on appelle les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Puisqu'on en parle, ces outils innovants, on les utilise à Hyperia déjà depuis un certain temps. On a créé des Serious Games, je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous, mais ce sont globalement des outils qui amènent à l'apprentissage en jouant. On utilise aussi beaucoup on est en train de développer au maximum la FOAD, qui est la formation ouverte à distance, et donc qui n'est plus de la formation faite en présentiel, face à face avec un formateur, mais une formation qui se fait par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne. Et donc, on essaye d'amener nos assistantes de vie vers l'utilisation de ces nouvelles technologies, en créant par exemple un réseau social sur lequel elles peuvent échanger avec leur père, en créant donc des plateformes d'apprentissage sur lesquelles elles vont venir apprendre. Au-delà de cette question d'innovation numérique, on aime à penser qu'on innove aussi socialement, notamment en développant ce qu'on appelle des modules de français compétences professionnelles. Nos publics sont en majorité un public souvent issu de l'immigration, qui a un peu de mal avec le français. Et on essaye, par le biais de ces modules français compétences professionnelles, de leur donner tous les outils pour permettre de communiquer au mieux avec leur employeur, d'optimiser leur communication et de répondre à leurs besoins linguistiques, en tout cas dans leur pratique professionnelle, ce qui permet de pérenniser, on l'espère, leur emploi. On a aussi, en termes d'innovation sociale, introduit l'alternance dans le secteur, sachant que le secteur que je représente aujourd'hui, c'est celui de l'emploi direct. Donc nos assistants de vie sont employés directement par le particulier employeur, par la personne âgée qui les emploie en général. Et on a tenté d'introduire l'alternance dans ce milieu, qui n'est évidemment pas chose facile, puisque l'employeur n'est pas non plus une entreprise, n'a pas forcément toutes les compétences nécessaires pour répondre à tous les besoins administratifs d'une telle démarche. Et enfin, on a développé sur le territoire, il y en a aujourd'hui 25, mais le nombre est amené à augmenter, les relais assistants de vie, où tous nos assistants de vie peuvent venir échanger sur leurs pratiques professionnelles, ce qui leur permet d'être beaucoup moins isolés sur un secteur où, il faut bien le dire, en général, elles sont malheureusement dans leur coin et n'ont pas du tout d'échange avec leur père. Donc, je vous l'ai dit, Hyperia a une certaine expertise de la formation et du numérique. Maintenant, il faut un peu plus que ça pour nous décider d'amener les assistantes de vie vers le numérique. Il faut qu'on soit fortement convaincu que, quelque part, ça a une utilité. Et pour qu'on en soit convaincu, on a fait un constat qui est très simple à réaliser et sur lequel je ne m'étendrai pas, puisque je pense qu'il est partagé par à peu près tout le monde ici. L'espérance de vie s'allonge, les gens vivent plus vieux, ça ne correspond pas forcément à un vieillissement en bonne santé, ça crée de nouveaux besoins. Le fait aussi que les pratiques professionnelles et sociales évoluent, c'est-à-dire que, par exemple, un enfant n'habitera plus à 3 km de chez ses parents, mais plutôt à 400 km, ce qui rend un accompagnement quotidien ou régulier, en tout cas, un peu plus compliqué. Donc voilà, le constat est fait, l'espérance de vie s'allonge, la population vieillit, on sera un Français sur trois à plus de 50 ans en 2050, contre 1 sur 5 en 2005. Ça sera, pour les personnes, on va dire, âgées de plus de 60 ans, ça représentera un Français sur 4. Ce sont à peu près les mêmes chiffres en Europe. Et donc, suite à ce constat et aux conséquences qui en découlent, nous avons décidé d'amener les assistants de vie vers le numérique. Alors, on a ici sur le salon Silver Economy beaucoup de gens pour qui la seule et unique solution, c'est celle qui est en troisième position sur l'écran, la pénétration des outils numériques au domicile des personnes âgées. Nous, on pense que c'est quelque chose qui... Le numérique, ce n'est pas quelque chose de naturel pour les personnes âgées. On pense qu'il faut remettre de l'humain au milieu de tout ça, et notamment on pense que l'ADV est le chaînon manquant qui peut permettre de créer un lien, de transférer des compétences, de transférer des connaissances. Dans tous les cas, nous pensons que l'assistant de vie, s'il est bien formé, qu'il a acquis des compétences numériques, qu'il sait lui-même de quoi il parle, on pense qu'il est donc le chaînon manquant qui va nous permettre d'introduire toutes les solutions numériques que proposent mes collègues là-bas dans le domicile de la personne âgée. Donc je vais en passer à nos projets européens en eux-mêmes, puisque c'est pas uniquement aujourd'hui par ce biais-là qu'Hyperia amène le numérique dans la vie des assistants de vie. Les projets européens, tout simplement, démarre sur exactement les mêmes constats que je viens de faire. Ces constats sont partagés par la Commission européenne et ils ont notamment été décrits dans la stratégie Europe 2020 ou Europe 2020 pour les intimes. En lançant nos projets, nous, on répond à quatre défis qui ont été posés particulièrement par la Commission européenne dans le cadre de cette stratégie qui est une stratégie décennale, donc sur les 10 années à venir. On répond au problème d'inclusion sociale. On pense qu'en utilisant les outils numériques, on va permettre à la fois aux personnes âgées et à la fois aux assistantes de vie d'être mieux inclus dans la société, de pouvoir mieux communiquer, partager. On va avoir des scénarios d'utilisation de nos outils pour pouvoir échanger sur des réseaux, pour pouvoir appeler ses proches tout simplement en se dispensant du moindre clic. Il faut bien garder en tête dans nos projets européens l'idée du binôme, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois avec l'assistante de vie et la personne âgée. Le but est que la qualité de vie de ces deux publics augmente en même temps. Il y a donc évidemment aussi l'enjeu de l'emploi auquel répondent nos deux projets. La stratégie européenne, c'est de, excusez-moi l'anglicisme, de matcher l'offre et la demande en termes d'emploi en faisant monter les compétences des employés. Et donc nous pensons qu'en développant les compétences numériques des assistants de vie, nous allons leur donner un plus qui va leur permettre de s'installer plus durablement sur le marché de l'emploi et en tout cas de pérenniser leurs emplois. Il y a évidemment, on ne peut pas la rater, la question de l'inclusion numérique. Par le biais de nos projets, on inclut dans le numérique des populations qui habituellement en sont extrêmement éloignées. Ça semble être une évidence pour les personnes âgées. Mais c'est aussi la même chose pour nos assistantes de vie qui, tout simplement par leur niveau de salaire, ne peuvent pas forcément venir acheter les outils numériques aujourd'hui ou tout simplement pour des questions de formation, ne savent pas comment ça marche, ont peur de venir s'en servir. Ce sont des publics qu'on veut amener vers le numérique. Après, par le biais de ces deux publics-là, qui sont évidemment notre cœur de cible, entre guillemets, on pense aussi amener tous leurs proches, par exemple les enfants des assistantes de vie. On se doute bien que nos assistantes de vie, quand on les aura équipées d'une tablette et qu'elles vont rentrer chez elles le soir à la maison, leurs enfants, qui n'ont pas forcément accès au numérique pour les raisons que je viens d'évoquer, leurs enfants pourront aussi avoir accès à ces outils. Donc c'est vraiment, on tente par ces projets, par nos projets, de répondre aux besoins exprimés par la Commission européenne. Et le dernier enjeu, c'est celui du soutien aux PME innovantes. Alors, dans un de nos deux projets, nous avons donc testé un outil qui est développé par une PME française. Donc l'outil s'appelle le LI1. Et donc la Commission européenne, par le biais de ces projets, cherche à développer un maximum de petites et moyennes entreprises qui travaillent sur l'innovation. Et donc par le biais de notre projet, en intégrant au partenariat une entreprise de ce type, nous répondons encore une fois à cette dimension décrite par la Commission européenne. Alors je vais maintenant entrer un peu plus dans le détail de nos projets. Les deux projets ont, il faut bien le dire, exactement le même but, c'est-à-dire faire monter en compétences numériques les assistantes de vie pour qu'elles puissent les utiliser auprès des personnes âgées. Et a priori, la question qui se pose, c'est pourquoi deux projets si c'est pour faire la même chose ? La réponse, elle est expliquée là sur cet écran. Nos deux projets sont financés par des directions générales de la Commission européenne qui travaillent sur des sujets complètement à l'opposé l'un de l'autre. Notre premier projet, CareUr Plus, est donc financé par le programme CIP-ICT-PSP. Alors, ce nom barbare veut donc dire programme de soutien stratégique en matière de technologie de l'information et de la communication. C'est la direction générale Connect qui s'en occupe, et cette direction générale travaille uniquement sur les questions numériques. Notre autre projet, Carnet, lui, fait partie du programme Lifelong Learning, qui veut dire apprentissage tout au long de la vie. Et ce programme est financé, lui, par l'Agence exécutive pour l'éducation, l'audiovisuel et la culture. C'est-à-dire que nous avons un programme où l'axe d'entrée est vraiment axé sur nos outils numériques, les outils qu'on utilise, et nous avons un autre programme, Carnet, qui est lui axé sur l'apprentissage que l'on fournit. Et pour autant, ces deux commissions, donc, au but a priori diamétralement opposé, ont choisi de financer deux projets qui sont à 95% identiques. C'est un peu la preuve, s'il en fallait encore, que la question du vieillissement actif et de l'introduction des nouvelles technologies au domicile de la personne âgée, donc c'est la preuve que cette question est une question centrale pour la Commission européenne, qu'elle essaye d'aborder sous plusieurs axes différents. Je vais passer donc tout de suite plus dans le détail et essayer de vous expliquer maintenant, après vous avoir expliqué le pourquoi, vous expliquer le comment, comment on se forme, comment on forme nos assistantes de vie au numérique. Et je vais donc commencer par le premier projet, qui est le projet CareUr Plus. Pour faire un petit retour sur l'anglais, je ne suis pas sûr que tout le monde maîtrise l'anglais ici. CareUr vient du mot care, qui veut dire prendre soin, accompagner. Et donc un carer en anglais, c'est une personne qui prend soin d'une autre personne, qui accompagne une autre personne, et donc c'est notre définition de l'assistante de vie. Et le plus, c'est là pour nous rappeler que les compétences qu'on va leur donner, nous pensons qu'elles vont leur donner un plus dans le métier et leur permettre de s'insérer de manière plus pérenne dans l'emploi. Alors, le consortium du projet, c'est 14 organisations dans 8 pays membres. Là aussi, tout comme tout à l'heure, je vous disais que les deux axes abordés par la Commission montrent que la question du vieillissement et du numérique est centrale en Europe. Le type, ses partenaires montrent aussi que c'est une question centrale parce qu'ils sont tous extrêmement différents. On a, Hyperia, nous sommes, je vous l'ai dit, créateurs de modules de formation. On a Télécentre, qui est un réseau qui aide à amener vers le numérique des gens qui, d'habitude, n'y ont pas accès. Donc c'est tout simplement un réseau de cybercafés qui dispense des formations numériques. Nous avons des instituts de recherche, des universités. Si vous voyez celui du dessous, le LSA, c'est l'équivalent de la Croix-Rouge en Lettonie. Voilà, ce sont des acteurs très différents, mais qui pourtant désirent tous travailler sur la question du vieillissement actif et des compétences numériques. Alors, notre projet dure 3 ans. Il a démarré l'an dernier, en mars 2012. Et la première année de ce projet a consisté à créer un référentiel de compétences numériques à destination des assistantes de vie. Donc, notre but, c'était d'identifier toutes les compétences numériques susceptibles d'intéresser les assistantes de vie dans la pratique de leur métier. Pour ça, on a réalisé 46 entretiens, 8 focus group. On a publié un questionnaire en ligne auquel 133 participants ont répondu, ce qui nous a permis de créer ce référentiel. J'ai essayé de vous en faire un schéma assez simple, même s'il n'est pas forcément très joli. Donc, dans ce référentiel comprend 41 compétences en tout. Nous avons donc identifié 41 compétences numériques susceptibles d'intéresser les assistantes de vie. Elle se découpe en 3 secteurs, des compétences numériques qu'on appelle fondamentales, qui sont des compétences numériques vraiment de base, du type se servir d'un navigateur Internet, envoyer des mails, démarrer Skype, ce genre de choses. Nous avons un deuxième domaine de compétences qu'on a appelé compétences numériques et pratiques professionnelles. Dans ce cas-là, celui-ci est vraiment purement destiné à l'assistante de vie et à son travail, pas forcément avec la personne âgée, mais à sa pratique professionnelle du type l'organisation de son agenda, de ses heures de travail, etc. Les rapports qu'elle peut, enfin, la facilitation des rapports qu'elle peut avoir à rendre quand elle travaille, par exemple, avec un mandataire ou un prestataire. Et aussi, on a identifié quelques compétences qu'on appelle celles de progression et support, que vous voyez, qui sont destinées à apprendre à l'assistante de vie à transmettre à la personne âgée ce qu'elle aura pu apprendre. Donc déjà, d'une part, de transmettre à la personne âgée l'envie d'aller vers le numérique, puisque c'est quelque chose qui ne se fait pas naturellement. Et une fois qu'on a réussi à expliquer à la personne âgée quels pouvaient être les intérêts pour elle du numérique, pouvoir la soutenir dans son apprentissage. Et on a enfin le dernier domaine de compétences, celui du dessous, donc qui sont les compétences numériques spécifiques à l'accompagnement des personnes âgées. Et là, ce sont des compétences qui sont donc destinées à l'assistante de vie, mais très orientées sur la personne âgée, qui vont permettre donc d'amener la personne âgée vers le numérique, notamment en la faisant participer sur des réseaux en ligne, sur des forums, en lui expliquant comment fonctionne Skype, pour ne citer que cette application. Voilà, en lui expliquant tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle peut être amenée à faire et tout ce qui pourra lui être utile. Donc, suite à cette première année et à partir donc de ce référentiel de compétences, nous avons mis en place toutes les conditions de lancement d'une expérimentation. Alors, cette expérimentation, je vais vous en parler dans quelques minutes. Elle va être lancée normalement d'ici le mois de janvier. Mais pour qu'elle soit lancée, nous avons eu besoin de construire les conditions qui vont permettre sa mise en route. Et parmi ces conditions, il y a la création d'un environnement d'apprentissage en ligne. Et cet environnement d'apprentissage en ligne, il consiste en 3 sites différents. Pour le moment, ils ne sont disponibles qu'en anglais, mais ils le seront en français d'ici la fin du mois. Alors, nous avons d'abord créé le portail Care of Plus, dont vous voyez la page d'accueil, qui a pour but de regrouper toutes les informations qui peuvent être pertinentes pour les assistantes de vie dans le cadre de leur métier. C'est-à-dire que, bon, déjà, on va retrouver nos 41 compétences numériques dont je vous ai parlé sous forme d'un wiki où elles sont détaillées et où les assistantes de vie vont pouvoir nous dire « Vous avez raison, celle-ci m'intéresse, celle-ci est complètement pertinente » ou alors « Sur celle-ci, vous vous êtes complètement planté, elle n'a rien à voir avec mon métier ». On va aussi agréger sur ce site l'ensemble des cadres juridiques qui concernent les assistantes de vie en Europe. Ils sont très différents dans toute l'Europe. Et on va permettre, en mettant un système assez simple en place, de comparer tous ces cadres juridiques qui permettra à l'assistante de vie, mais aussi aux autres groupes cibles du projet, de se renseigner, de comparer et de savoir ce qui peut évoluer d'un pays à un autre. On va aussi tenter de créer un catalogue de toutes les formations disponibles, donc formations numériques pour l'assistante de vie, dans toute l'Europe. C'est quelque chose qui va être difficile à mettre en place. On va avoir besoin du soutien des centres de formation, mais c'est quelque chose auquel on travaille. Alors, ce portail donne accès directement à un réseau. Vous envoyez une copie d'écran. Ce réseau va permettre aux assistantes de vie et à toutes les parties prenantes du secteur de communiquer, d'échanger sur leur expérience, de revenir sur leurs pratiques professionnelles, de nous dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, que ce soit dans le pour des questions numériques ou pas du tout. Donc, ça peut être aussi des questions complètement générales du métier d'assistante de vie. On espère comme ça que les assistantes de vie vont pouvoir se rendre compte que leur métier est valorisé, qu'il sert à quelque chose, qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'elles font et surtout qu'elles ne sont pas seules. Et enfin, notre dernier environnement, c'est la plateforme d'apprentissage en ligne, puisque nous allons dispenser une formation à 80% en ligne, donc sans une formation qui ne va pas se faire en face à face directement avec un formateur, mais qui passera par le biais d'un outil en ligne. Alors, elle est encore en développement, elle sera elle aussi disponible pour le projet Carreur Plus à la fin du mois a priori. Donc, pour revenir sur l'expérimentation, elle va se dérouler dans 5 pays, la France, l'Italie, l'Espagne, la Roumanie et la Lettonie. Elle va regrouper donc 250 assistantes de vie et 250 personnes âgées dans toute la France, dans toute l'Europe. En France, ce sera 50 personnes âgées et 50 assistantes de vie. Pendant cette expérimentation, nous allons offrir 200 heures de formation aux assistantes de vie qui se découpent globalement en 6 modules. Les deux premiers modules qui sont consacrés à l'apprentissage des compétences vraiment de base. Un troisième module qui est consacré aux compétences plutôt entre guillemets dites professionnelles, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, celle de l'organisation d'un agenda, etc. Et les trois derniers modules seront plus axé sur le travail au domicile de la personne âgée. Et la différence entre ces trois modules, en fait, ça sera démonté en compétences sur le niveau de dépendance de la personne âgée. C'est-à-dire que le premier de ces trois modules sera pour des ADV qui ont l'habitude de travailler avec des personnes qui sont encore plutôt autonomes. Quant au dernier module, lui, sera adapté aux personnes âgées qui sont en très forte dépendance. Donc, pour mener à bien cette expérimentation, je vous l'ai dit, ça sera 200 heures de formation, ça va durer 10 mois. Nous allons équiper toutes les assistantes de vie et toutes les personnes âgées de tablettes numériques. Nous allons les faire travailler avec ce qu'on appelle aussi des puces NFC. Je ne sais pas si ça parle à grand monde des puces NFC. Pour les Parisiens, c'est ce qui équipe tous nos passes Navigo qui nous permettent de rentrer dans le métro. C'est de la technologie sans contact, en fait. Quand on pose le pass Navigo sur le portique s'ouvre, on peut développer énormément d'applications grâce à ces puces NFC. Ce sont des choses toutes petites qui peuvent tenir dans un porte-clés, ça peut être des autocollants. Ce sont des tout petits circuits électroniques qui sont très facilement réglables et qui permettent de déclencher très facilement des actions. Par exemple, en ayant réglé une puce électronique, je peux déclencher le lancement de l'application Skype et l'appel vers mon petit-fils si je suis une personne âgée, ce qui permet vraiment grandement de faciliter l'action. C'est tout autre chose que de cliquer sur l'application Skype, aller chercher son petit-fils pour peu qu'il soit connecté, etc. Là, j'approche ma tablette de la puce, ça lance l'application automatiquement. Ce qu'on souhaite faire, c'est apprendre à nos ADV à régler ce type de puce et accompagner les personnes âgées dans leur utilisation. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue qui nous a rejoint et qui va plus spécifiquement vous parler du pilote du deuxième projet européen qui s'appelle Carnet et qui, lui, a déjà été lancé. Et donc, on a déjà un certain retour d'expérience, et en tout cas, on va pouvoir vous parler, enfin, ma collègue va pouvoir vous parler plus précisément du type de public que nous rencontrons, et notamment des compétences numériques préalables existantes ou non, à la fois des assistantes de vie et des personnes âgées.
Bonjour à tous. Donc Sandrine Leroyer, chef de projet chez Hyperia, l'Institut. Donc je suis en charge sur le projet européen CareNet de la mise en œuvre du pilote d'expérimentation, donc qui intervient en conclusion, en finalisation de tout le travail qui a été réalisé par l'ensemble des partenaires européens en amont, dont Thomas vous a déjà parlé. Donc, l'expérimentation en Europe pour ce projet réunit au total 70 personnes, 35 binômes, 35 salariés, 35 employeurs, et va se dérouler en France et en Espagne. Donc, en France, nous avons fait le choix de nous appuyer sur un dispositif que nous avons mis en œuvre chez Hyperia. Au niveau national, ce dispositif, ce sont les relais assistants de vie. Les relais assistants de vie, ce sont des temps de rencontres et d'échanges pour permettre aux salariés, en emploi direct ou en mandataire, de se rencontrer, de rompre un certain isolement professionnel et de ce fait, de pouvoir échanger leur expérience pour analyser des cas particuliers, repartir avec des solutions concrètes. Également, rencontrer des professionnels, des experts qui vont pouvoir venir répondre à leurs questions. Donc, pour cette expérimentation du projet CareNet, nous avons fait le choix de nous appuyer sur 4 relais assistants de vie installés en France, la Gironde, la Corrèze, la Drôme et les Hautes-Alpes. Alors, on a dans ces départements, on a 3 départements qui ont la particularité d'être des départements assez ruraux. Hein. Donc, contrairement à la Gironde, où on a fait le choix de le faire sur Bordeaux pour pouvoir avoir un panel un peu plus urbain. Alors, le pilote CareNet propose donc sous la même forme hein, que le travail qui a été réalisé sur Carer Plus, il y a eu tout un travail de construction, d'analyse des besoins et des motivations des deux publics, de construction d'une carte de compétences qui a abouti à 3 parcours de formation scindés. Trois parcours à destination, 2 sont à destination des assistants de vie uniquement, et 1 est à destination du binôme. Donc le premier parcours qui concerne les fondamentaux des usages numériques regroupe 6 modules. Donc on est sur des modules plus d'initiation aux usages numériques, d'initiation à l'utilisation de la tablette, à la navigation, à la recherche d'informations sur Internet. Et puis, comment sécuriser également les échanges de données, d'informations, comment se prémunir d'attaques sur Internet. Voilà. Donc ça, c'est ce premier parcours qui est la première pierre à l'édifice pour amener les salariés à réaliser un parcours qui lui comporte 4 modules sur qu'est-ce que les usages numériques peuvent m'apporter dans un cadre professionnel. Donc pour gérer mon activité professionnelle au quotidien, pour apprendre entre pairs, donc dans la continuité de ce qui se fait dans les relais assistants de vie, comment je vais interagir avec d'autres salariés avec qui je vais construire également des solutions à mettre en place chez mon employeur. Développer son employabilité, donc c'est apprendre à valoriser ses expériences et ses compétences pour pouvoir les vendre notamment au travers d'un e-portfolio. C'est un outil qu'on leur met à disposition. Et le dernier module, qui va être le module charnière pour permettre la fin du parcours, accompagner la personne âgée dans l'utilisation des usages numériques au quotidien. Donc c'est ce dernier parcours qui introduit, ce dernier module, qui introduit le parcours, qui celui-ci va se faire en binôme, salarié qui accompagne son employeur. Qu'est-ce que les usages numériques peuvent apporter à la personne âgée au quotidien? Donc celui-ci regroupe 6 modules de formation pour apprendre à créer et maintenir du lien social avec sa famille. Donc l'exemple que donnait tout à l'heure Thomas, aller sur Skype, échanger avec le petit-fils ou les petits-enfants qui habitent soit dans une autre région de la France, soit à l'étranger. Également via Facebook, enfin des réseaux sociaux aussi qui vont permettre créer du lien intergénérationnel notamment. Hein. Réaliser des activités comment ? Réaliser des activités ludiques, tout simplement. Hein, c'est apprendre à la personne âgée à se servir de petites applications telles qu'un sudoku, des mots croisés ou le solitaire, voilà, des petites applications de jeu. Mais on va les emmener dans l'assistante de vie, va les emmener dans la découverte. Et puis, comment apprendre à s'en servir et comment ça peut agrémenter mon quotidien si je ne peux pas sortir de mon domicile. Le troisième module, donc, qui concerne le renforcement des aspects positifs de son quotidien, c'est comment je vais pouvoir interagir avec les instances médicales pour gérer mes rendez-vous. Par exemple aussi les analyses médicales qui peuvent être faites, donc suivre. Alors ça c'est un exemple, il y a beaucoup d'autres activités qui sont proposées, celui-ci étant le principal. Participer à des communautés de pratique en ligne. Alors des communautés de pratique, on va par exemple emmener l'employeur pour sur un site de généalogie, par exemple, découvrir comment je vais pouvoir échanger avec des personnes sur des centres d'intérêt communs. Et puis, pour sécuriser les échanges, justement, un module, savoir s'exprimer, où on va accompagner la personne, justement sensibiliser la personne sur les bons termes à utiliser dans les échanges, aussi pour protéger sa vie privée également. Et enfin, sécuriser les transactions en ligne, comment gérer éventuellement mes comptes en ligne, comment utiliser une pay web card, je ne sais pas si vous connaissez la notion, un numéro de carte bancaire fictif qui est mis à votre disposition, justement pour éviter notamment de se faire voler son numéro réel de carte bancaire. Donc voilà, on va apprendre, enfin l'assistante de vie va apprendre d'abord à se servir de toutes ces techniques pour ensuite accompagner son employeur à son domicile à les utiliser lui-même, à les mettre en œuvre pour sa propre utilisation. Donc pour cela, on a articulé le projet dans le cadre du dispositif Relais Assistant de Vie, c'est-à-dire que le dispositif, au départ, ne comporte que 5 séances d'échange, 5 séances physiques où les assistantes de vie se regroupent avec un animateur. Donc pour compléter et sécuriser les parcours, on a rajouté en amont une première séance de 5 heures pour travailler sur l'initiation, l'acquisition des outils. Et donc on a rajouté, en plus des 5 séances, entre chacune, des temps de formation ouverte à distance. Donc les assistantes de vie sont amenées, puisque nous avons débuté en novembre, sont amenées actuellement à se rencontrer donc sur les séances avec les animateurs, à rencontrer des experts. Lors de ces séances, elles réalisent un module. Par exemple, sur la séance 1, elles vont réaliser le module qui a trait à la sécurité et échanger avec un expert qui va leur apporter toutes les notions complémentaires nécessaires justement pour la réussite de ce module. À partir de là, elles vont partir à leur domicile, équipées d'une tablette. Je reviens. Excusez-moi. Nous les avons toutes équipées d'une tablette, une Google Nexus 7. Donc c'est une, voilà, qui est aussi grande que ça. Qui leur permet d'accéder, elles sont équipées d'une connexion 3G. Donc chaque participante à l'expérimentation a reçu cet outil avec une connexion, donc il n'est pas obligé pour elles de ce fait d'avoir obligatoirement à son domicile une connexion Internet. Et donc au travers de cet outil, elle va pouvoir évoluer sur l'environnement d'apprentissage virtuel, alors sous la même forme que celui que vous a présenté Thomas tout à l'heure, composé d'un espace d'apprentissage à distance, du réseau social et également d'un wiki de compétences. Ces trois outils sont accessibles directement sur la tablette et à leur domicile, elles vont être amenées à suivre pas à pas les modules qui leur sont proposés, à découvrir des ressources pédagogiques et à aller échanger sur le réseau social sur leurs expériences avec l'animateur et les autres assistants de vie pour avancer, continuer à avancer pas à pas sur les parcours. Donc ces interséances sont d'environ 8h45. Au total, et donc on organise avec les animateurs des regroupements après chaque réalisation de modules pour évaluer les difficultés, répondre à une difficulté qui a pu être bloquante pour permettre à l'assistante de vie de poursuivre sur la réalisation des modules suivants. Donc voilà, sur cette articulation, et donc l'on terminera l'expérimentation sur la séance 5 en février, mi-février à peu près, où on invitera également les personnes âgées à venir nous témoigner de leurs expériences, nous témoigner de leur aisance après cette réalisation. Est-ce qu'elles ont suffisamment acquis d'expérience, suffisamment pu comprendre les objectifs du module pour parvenir seules et avec l'assistant de vie aussi à réaliser les activités qui leur étaient proposées. Alors, je vous l'ai dit, on a commencé en novembre. En amont de l'expérimentation, on a fait remplir à l'ensemble des participants de salariés un questionnaire pour connaître leur profil. Donc, je vous présente quelques données synthétiques. Donc, les participants à l'expérimentation, on a 54% de personnes qui, alors majoritairement des femmes, nous n'avons qu'un homme qui participe à l'expérimentation. 54% donc de ces personnes rentrent dans une tranche 50-59 ans et on a 23% dans la tranche des 30-39 ans et 23% dans la tranche des 40-49 ans. Donc on a là une vision de la réalité de ces salariés. Alors, au niveau leur niveau d'études, on a une personne qui est issue d'un niveau universitaire et majoritairement donc les salariés, donc 32 d'entre elles, sont issues, ont un niveau équivalent au lycée, baccalauréat en fait, ou un niveau équivalent collège. Et trois d'entre elles sont d'un niveau équivalent à l'école primaire. Au niveau, en termes d'utilisation d'Internet, on a également brossé un peu le profil. Donc on voit que majoritairement, on a 50% quand même de ces 35 personnes qui utilisent au moins une fois par semaine Internet. Donc elles ont déjà une connaissance de l'outil Internet qui va faciliter, je dirais, leur progression dans les parcours. Par contre, on a quand même, il me semble que c'est 5 personnes parmi les participants qui, elles, ne connaissent pas du tout ni l'informatique ni Internet. Donc celles-ci vont nécessiter un accompagnement beaucoup plus approfondi, beaucoup plus fin, pour leur permettre justement de réaliser les activités, les modules à leur domicile en formation ouverte et à distance. Alors, leur niveau de compétences également, on retrouve les 5 personnes novices ici, que l'on voyait précédemment. On a 7 personnes qui sont débutantes et puis 23 d'entre elles qui ont un niveau intermédiaire. Donc on a très peu de personnes, malgré le fait qu'elles utilisent régulièrement Internet, on a très peu de personnes qui ont un niveau de compétence avancé sur l'utilisation et d'Internet et de l'outil informatique. Et enfin, donc, sur leur degré d'aisance, on leur a fait également passer un test pour évaluer leur degré d'aisance par rapport au fait de travailler en formation et ouverte et à distance, puisque pour toutes, ça va être c'est une découverte. Elles n'ont encore aucune suivi de formation ouverte et à distance. Donc, on a 23% d'entre elles qui sont tout à fait à l'aise, ou plutôt à l'aise, et on a une petite majorité, donc on retrouve là encore les 5 personnes, plus quelques-unes, auprès de qui on devra porter une attention particulière, puisqu'elles ne sont, voilà, au niveau de l'aisance, elles ont quelques difficultés et quelques appréhensions. Voilà pour cette présentation. Avez-vous des questions sur... Oui. Alors la question, c'est est-ce que l'on travaille uniquement avec des particuliers ou des associations également ? En effet, dans le panel, je ne vous l'ai pas indiqué, on a les deux publics qui sont représentés, des salariés particuliers, enfin qui sont employés en mode emploi direct, et également 60% il me semble, qui sont employés en mode mandataire, avec des associés, donc qui passent par association mandataire. On n'a pas d'association prestataire de représenter, si c'est là votre question. Voilà. Alors, pourquoi il n'y a pas d'association prestataire de représenter ? Tout simplement parce que les deux branches qui mandatent notre organisme Hyperia sont les branches professionnelles des salariés du particulier employeur. Donc, on n'agit pas sur la même convention collective et les mêmes fonds de formation. Voilà.
Je vais peut-être conclure très vite parce que je vois qu'on est en train de dépasser un petit peu. S'il y avait une chose que vous deviez retenir de notre intervention à Sandrine et à moi aujourd'hui, c'est que à Hyperia, on veut replacer l'humain au centre de toutes ces questions du numérique. On pense qu'il y a un lien absolument nécessaire à faire entre la personne âgée et l'utilisation du numérique. On pense, bon, mais ça c'est le fait de notre organisation, que ce lien absolument nécessaire, c'est l'assistante de vie. Mais voilà, il faut que les outils soient adaptés à l'usage et non l'inverse. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est d'avoir des gens qui savent se servir des outils numériques. Et ces gens-là, nous pensons que ce sont les ADV. Et pour conclure, si vous êtes intéressé par ces deux projets, on a un stand qui est juste là à la sortie de la salle. Vous pouvez venir nous voir, on sera là. Nous recherchons des gens qui sont experts dans le domaine de la formation, dans le domaine du numérique, dans le domaine des assistantes de vie, puisque nous faisons évaluer nos principales productions sur ces deux projets par des experts du secteur. Donc si vous êtes intéressé par le fait d'évaluer la formation qu'on a développée, ou alors vous êtes intéressé pour évaluer notre réseau social, ou voilà, toutes les productions des deux projets, n'hésitez pas à venir nous voir. On vous parlera du cadre dans lequel ça se passe. Ce sont quelques petites réunions défrayées à Bruxelles ou à Paris. On est toujours à la recherche, voilà, de profils d'experts dans le secteur. Voilà, ben merci à tous de nous avoir écoutés et bonne fin de journée sur le salon.